Le numérique est peut-être de nouveau un révélateur aussi de toutes les nouveaux conflits sociaux. Il révèle ce qui sont les nouvelles tensions, les nouvelles façons d'interagir avec autrui. Il révèle les tensions sociales.
Bonjour et bienvenue dans Be My Guest. Je vous emmène à la rencontre de ceux qui font et de ceux qui pensent le digital. Aujourd'hui, je suis avec Stéphana Broadbent, qui est entrepreneuse, anthropologue, chercheuse. Vous la connaissez peut-être à travers son TED Talk, qui a eu plus de 2 millions de vues en ligne. Elle a un parcours fascinant. Elle a travaillé avec Swisscom. Elle observait les familles et leur usage des technologies. Elle s'est ensuite penchée sur les interfaces. Elle a notamment étudié l'impact de l'automatisation sur les interfaces critiques, par exemple dans les centrales nucléaires ou pour le contrôle aérien. Elle a ensuite rejoint le think tank anglais Nesta, financé par le gouvernement, pour comprendre la société de demain. Elle a notamment étudié les usages des personnes à la marge, comme les SDF. Aujourd'hui, elle travaille sur l'intelligence collective qu'elle perçoit comme une alternative à l'intelligence artificielle.
Be My Guest, présenté par Laurent Haug, en partenariat avec 200 idées et créa, école membre de InSecU.
Bonjour Stéphana Broadbent.
Bonjour Laurent.
Aujourd'hui, on est à la FAIR, le jour où on enregistre cette discussion. Vous allez parler du futur du travail. Alors, selon vous, comment est-ce que la technologie a changé la façon dont on travaille aujourd'hui ?
Alors, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est très impressionnant comment les compétences ont évolué. Depuis 10 ans, je pense, soit au travail que dans la vie privée, tout le monde a acquis des compétences non seulement techniques, mais surtout communicationnelles, je dirais. La capacité vraiment de comprendre l'autre avec des médias et des moyens, même assez limités. Donc, je pars du constat, en fait, que ces compétences, elles sont très diffuses. Quoi qu'il soit le travail, en fait, c'est très difficile de nos jours de trouver des personnes qui n'ont pas quelques contacts dans le cadre de leur activité avec des ordinateurs, des données, etc. Donc ça, c'est mon point de départ. Et donc, on construit de là. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et je pense que peut-être le changement le plus impressionnant qu'on pourra voir devant nous, et là, je vais aller un peu à contre-courant par rapport à ceux qui s'attendent que l'intelligence artificielle prennent tout notre travail et tous nos boulots. En fait, ce que je pense que devant nous va se développer, c'est encore la capacité encore majeure de collaborer même à distance, même avec des équipes très éloignées, et donc de se joindre dans ce qu'on commence à appeler l'intelligence collective.
C'est ça. Donc l'intelligence collective, en fait, c'est des gens qui se mettent ensemble, notamment à l'aide des technologies. Et donc c'est une sorte d'hybride entre l'intelligence humaine, mais qui est augmentée par l'arrivée de la technologie. C'est ça.
Oui, c'est ça l'idée. C'est en fait que maintenant que tellement de gens sont connectés, effectivement, on a une banque de compétences mondiales, des connaissances très étendues qui vont de connaissances même qui sont pas nécessairement tout de suite mises au travail, mais que les gens ont acquis, que tout d'un coup on peut mobiliser.
C'est ce qu'on a vu sur des projets comme Wikipédia ou l'open source, par exemple.
Exactement. Peut-être le plus beau exemple de tout, c'est qui date maintenant, mais qui reste quand même, vivant, etc. Évidemment, c'est Wikipédia. Et dans le monde un peu plus technique, depuis 20 ans, en fait, maintenant, on a les systèmes les plus puissants d'ordinateurs, de systèmes informatiques, tournent sur sous de l'open source, c'est-à-dire du code qui a été créé par des gens éparpillés, qui se connaissent pas, qui se rencontrent pas, et qui pas tous étaient dans des grosses entreprises. Certains oui, mais certains non. Mais qui ont tous collaboré à petits morceaux au niveau de leurs compétences pour créer une base de connaissances commune qui est très utilisable.
Et donc ça, en fait, ce que vous dites, c'est que la technologie a accéléré ce phénomène et l'a quelque part globalisé. Parce qu'en soi, la collaboration un peu organique, hein, s'il y a un livre qui parle de la cathédrale et du bazar, qui est assez connu, qui reprend cette image, la cathédrale étant très organisée, le bazar étant très horizontal, très désorganisé, très organique donc. Et en fait, ce que vous dites, c'est que la technologie a accéléré ce processus et l'a rendu, l'a fait changer d'échelle, en fait, c'est ça.
Tout à fait. Et je pense que d'une part, ce qu'on est en train de voir, c'est que de plus en plus d'organisations se rendent compte que il y a cette espèce, en anglais on parle de la sagesse des foules, en fait qu'il y a ces connaissances qui sont éparpillées, qu'on peut effectivement mobiliser pour plein de choses. Alors, il y a plusieurs domaines où on voit ça en action. Il y a beaucoup d'administrations, beaucoup de politiques, de systèmes publics qui se rendent compte qu'effectivement, les citoyens ont des compétences à amener, que avec la progressive nécessité de réduire certains coûts, on peut effectivement s'appuyer, si vous voulez, d'une autre manière à ces citoyens. Et donc, on voit, par exemple, de plus en plus d'exemples de budgets participatifs ou bien d'appels aux citoyens pour définir des lois, des initiatives, etc. Donc, il y a toute la sphère, si vous voulez, publique, qui est en train de s'emparer d'une manière de plus en plus importante de ça, avec même des programmes de recherche importants aux États-Unis sur comment faire ça dans les pays scandinaves, évidemment, etc. Et il y a aussi toute une sphère que moi j'aime beaucoup, qui m'intéresse beaucoup, qui est dans la sphère médicale, où on voit les patients s'organiser. En fait, il y a de plus en plus d'organisations de patients qui accumulent des connaissances, qui se mettent en réseau pour comprendre mieux les certaines maladies, pour se rendre des nouveaux interfaces avec le monde clinique, mais aussi le monde pharmaceutique. Et cela, par exemple, intéresse beaucoup les maladies rares, là où justement le monde pharmaceutique n'a pas pu investir autant que dans les maladies, disons, plus rentables, si on peut utiliser ce terme. Et le fait de pouvoir être en réseau a permis de partager des connaissances. Et là, vraiment, à chaque fois, je reste fascinée par la brillance, si vous voulez, de personnes qui disons qui n'étaient pas parties dans ça, mais à cause un peu des événements de leur vie ou souvent de la vie de leurs enfants, se retrouvent à devenir des spécialistes et à partager ça, et cela est en train, et de plus en plus, par exemple en Angleterre où j'ai vécu longtemps, il y a une grosse crise, par exemple, dans le monde psychiatrique. Il y a simplement pas assez de lits, pas assez, etc. Et il y a beaucoup de ces organisations, par exemple une organisation qui s'appelle Mind, par exemple, sur lequel les services publics s'appuient. Donc, ces initiatives, en fait, sont devenues vraiment des points d'appui aussi pour les services publics.
Donc, c'est les patients qui se mettent ensemble pour accumuler peut-être plus de savoir que l'expert en face duquel il ou elle se retrouve. Et donc, ils se mettent à collaborer. Et donc, vous avez travaillé chez Nesta, qui est un think tank, comme on dit en anglais. Je sais pas comment ça se traduit en français. Enfin, un espace de réflexion lancé par le gouvernement anglais, en l'occurrence. Et donc, d'abord avec peut-être cette motivation de réduire les coûts, de mieux impliquer les citoyens. Et c'est vrai que c'est un phénomène qu'on a observé, qui a un peu émergé de terre, qui a été accéléré par la technologie, comme on l'a dit. Et le but de Nesta, c'était de comprendre en fait comment est-ce qu'on pouvait créer et systématiser ce phénomène. C'est-à-dire de pas juste voir se réveiller un jour, il y a Wikipédia qui s'est passé, on sait pas trop comment et pourquoi. Et donc c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut vraiment encourager ces processus, qu'est-ce qui s'échange dans ces plateformes et comment est-ce qu'on pourrait impliquer les citoyens. Qu'est-ce que vous avez appris en observant cette intelligence collective, c'était le titre de votre métier chez Nesta. Qu'est-ce que vous avez appris, quels sont les leviers qu'on peut utiliser pour dynamiser, pour allumer cette intelligence collective?
Oui. Alors, il y a deux choses. Déjà, de nouveau, moi je suis assez optimiste parce que je pense que le point de départ, c'est que nous sommes naturellement collaboratifs et naturellement capables, d'une certaine manière, de nous focaliser avec autrui sur des tâches. Alors, ce qui est sur des objectifs. Donc, on part, si vous voulez, avec un... nous avons, si vous voulez, un bagage cognitif et culturel qui nous porte déjà à ça.
On est fait exactement pour ça. Notre ADN est collaboratif.
Tout à fait. Notre ADN est collaboratif et notre ADN est fait pour faire des projets ensemble. Donc déjà ça. Le deuxième aspect, c'est que en fait, il faut toutefois que les plus beaux projets qu'on a vu, que ce soit le open source, que ce soit Wikipédia, les cartes collaboratives, les systèmes de mapping collaboratifs. Tous ces systèmes partent avec une espèce de ce qu'on appellerait une gouvernance clairement ouverte. C'est-à-dire que les gens sont prêts à collaborer, à créer des grosses bases de connaissances publiques et communes, s'ils savent d'une certaine manière que leur contribution n'est pas au profit, si vous voulez, qui sont pas en train
d'enrichir quelqu'un d'autre. De faire du bien pour leur communauté. Ouais.
Exactement. C'est-à-dire que, et je pense que c'est aussi un apprentissage qui a été fait dans ces dernières 10-15 années d'activité numérique importante. C'est que je pense que tout le monde est devenu assez habile à reconnaître quand il y a un phénomène que je dirais extractif. Donc, ce qu'on met dedans est tiré sans un gros bénéfice pour soi. Et je pense qu'on est devenu assez habile.
On va chercher les motivations derrière, parce que c'est vrai, oui. Pour travailler avec pas mal d'entreprises sur les sujets digitaux, il y a des gens qui vont venir nous voir en disant « faites-moi une vidéo virale ». Par exemple, leur dit « ben non, une vidéo virale, en général, c'est vrai que si c'est une marque qui est derrière, les gens vont pas forcément la relayer, pareil que si c'est par exemple une ONG, comme il y a eu avec le Ice Bucket Challenge. » Et donc, parce que c'est un peu le rêve des gens du business, on se dit « ah, il y a des gens qui travaillent gratuitement pour nous, pour ma marque, donc faites-moi un Wikipédia et puis les gens vont s'occuper du support à nos utilisateurs. » Non, la motivation est importante. Et en fait, il y a un échange de valeurs dans ces plateformes. C'est-à-dire que quand je contribue à cette intelligence collective, je dois recevoir quelque chose, que ce soit du contenu, que ce soit un statut social, que ce soit une expérience. C'est ça que vous dites.
Exactement.
Donc, et c'est ce qu'on oublie très souvent.
Oui, exactement. Et puis, il y a une autre composante qui est vraiment très importante, et c'est là où je pense qu'il y a un énorme travail encore à faire, qui est celui des outils et des plateformes. C'est-à-dire que, alors que justement, en intelligence artificielle, on voit un déploiement de moyens extrêmement important dans beaucoup d'entreprises, de centres de recherche, d'organisations. On voit en fait que les plateformes collaboratives, elles sont encore, il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire pour permettre justement une espèce de coordination facile, pour permettre un traçage. Donc, ce qu'on voit, c'est en fait, on voit beaucoup d'organisations, de groupes, etc., qui travaillent avec des plateformes qui n'ont jamais été créées pour ça. On voit beaucoup de jolies tentatives. Il y a par exemple quelque chose qui s'appelle Lumio.org, je pense. Il y a Democracy OS. Il y a tout un ensemble de plateformes, si vous voulez, plus pour une démocratie participative qui a un seul but.
Liquide, d'ailleurs, je crois que c'est le mot. Ouais,
voilà, liquide. Et qui là essaye de trouver des moyens de faire collaborer. Mais pour des systèmes qui sont plus complexes, qui sont plus orientés à des objectifs, même éventuellement commerciaux ou comme ça, je pense qu'il y a encore du travail à faire. Et ça fait justement plusieurs années qu'aussi chez Nesta, il y a un peu un appel faites des efforts, investissez là-dedans parce qu'il y a beaucoup à faire. Et il y a évidemment des plateformes qui marchent bien, mais qui souffrent un tout petit peu de cet aspect un peu extractif que je disais. Je pense à Amazon Torque qui existe depuis très longtemps, qui est une plateforme où n'importe qui d'une certaine manière peut lancer des petits travaux, des petites contributions online et habituellement pour un prix assez réduit ou pour
quelques cents par action,
des personnes partout dans le monde de chez eux peuvent collaborer en décodant quelque chose, en comprenant, en reconnaissant ou en traduisant un texte, etc. Et chose qui peut permettre à des personnes de faire ainsi que des centaines ou des milliers de personnes résoudent très rapidement une tâche qui à une ou deux ou trois personnes serait extrêmement long et pénible à faire.
Le slogan, moi je trouve que Amazon Mechanical Turk dont vous venez de parler a un des plus beaux slogans, enfin en tout cas les mieux trouvés, c'est artificial intelligence. C'est de l'intelligence artificielle parce qu'en fait c'est des humains et que on demande aux humains un peu de se comporter comme la machine. C'est pour ça que c'est controversé. Enfin Amazon a toujours un peu des rapports difficiles avec les gens qui travaillent pour la plateforme directement ou indirectement. Ce que vous disiez, c'est qu'en fait aujourd'hui c'est très difficile de faire investir les entreprises dans ces plateformes collaboratives, alors qu'elles sont peut-être très efficaces. Et par contre, c'est très facile de faire investir dans l'intelligence artificielle parce qu'elle nous fait cette espèce de promesse magique où on nous dit voilà, on va travailler pendant quelques années en baissant la tête, en faisant du code, et puis après, on va pouvoir réduire les coûts par 1000 parce qu'on n'aura plus d'humains, on n'aura plus besoin de travailleurs humains. Quel est votre regard sur cet autre côté, donc cette autre forme d'intelligence qui est en train d'émerger, qu'on appelle l'intelligence artificielle?
Non, c'est justement intéressant ce que vous dites, parce que pour l'instant, quand on regarde de près, en fait, comment beaucoup de systèmes marchent, on se rend compte qu'ils restent fortement hybrides. C'est-à-dire qu'entre ce qu'on appelle le nettoyage des données, tout le travail qui est fait pour préparer les données, pour qu'ils soient faites, le fait qu'une partie de, 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 de toute manière des calculs, etc., sont re-regardés, etc., on reste encore un peu loin de cet idéal, et donc cette hybridation encore là. Et ce que je pense qui va se passer, de toute manière encore pendant longtemps, c'est même quand il y aura une augmentation, si vous voulez, de la précision, de la fiabilité de beaucoup de ces systèmes, l'humain restera dans la loupe, si vous voulez, dans la boucle,
impliqué dans la boucle,
encore pour plein de raisons de responsabilité et de raisons légales. C'est-à-dire ce qu'on peut imaginer. Je pense au cas spécifique des. On parle beaucoup comme un des cas les plus de plus grand succès actuel dans l'artificiel dans le monde médical, qui est soit bien en analyse pathologique que pour la détection de mélanome. Effectivement, en enseignant à un système automatique de AI et d'intelligence artificielle, en lui montrant des milliers et des milliers de radios, la détection et le diagnostic de mélanome et de cancer de la peau et de cancer du sein, apparemment à un niveau de précision très très élevé, pratiquement sinon pareil ou même meilleur parfois qu'un radiologue. Et donc c'est porté comme un exemple. Toutefois, à chaque fois, le radiologue intervient. Je veux dire, jamais, en fait, il y a le cas où il n'y a pas une supervision éventuelle du médecin. Et de même, un des cas les plus controversés actuellement, c'est justement aux États-Unis, l'utilisation de systèmes prédictifs d'intelligence artificielle pour décider quelqu'un a le droit à une liberté conditionnée. Et là aussi, en se basant sur des profils nombreux, des probabilités de récidive ou de retour, des systèmes d'intelligence artificielle peuvent faire des recommandations sur la potentialité de libérer ou non. Mais le juge reste dans la boucle pour effectivement valider ou non ce type de suggestion automatique. Donc, pour l'instant, on sait qu'ils sont là, mais ce qui, en tant que, disons, non seulement humanisme, surtout cognitiviste et anthropologue, ce que je me dis, c'est que on est un peu dans la même situation d'il y a certaines années, quand on a mis des personnes dans des postes de monitorage, de vigilance, en enlevant beaucoup de l'action. Et bon, ici aujourd'hui, on est à Genève. La patrie de Jean Piaget, et un des fondements, si vous voulez, de l'approche psychologique cognitive aussi piagétienne, c'est que l'intelligence, elle vient de l'action. Et donc à chaque fois, moi, ce qui me préoccupe, si vous voulez, c'est à chaque fois qu'on enlève, on diminue l'action, on enlève à l'individu sa capacité d'agir, on réduit quand même sa capacité de compréhension.
Et c'est peut-être la chose. Et donc de décision, parce qu'en fait, on retire l'action, mais on demande toujours de prendre la décision à la fin, et c'est la théorie, les vieux pilotes d'avion disent que les jeunes ne savent plus piloter parce que en fait c'est devenu tellement automatisé qu'ils savent plus gérer un incident comme peut-être avant les vieux pilotes savaient le faire. Donc c'est qu'on perd en fait nos skills, nos capacités à cause de l'automatisation, mais on reste à la fin à devoir prendre des décisions. Et on prend la décision mieux quand on connaît les éléments sur lesquels on décide. C'est ça que vous dites.
Et exactement. Et en fait, on souvent, en fait, ces postes restent un peu le dernier rempart pour éviter l'accident, éviter l'erreur, mais souvent sans les moyens et surtout la transparence.
On parle beaucoup. Des boîtes noires, voilà, c'est ça. Exactement. C'est qu'on reçoit, on dit à 80% de chance cette personne va pas récidiver, mais on sait pas comment l'algorithme a calculé ça, pourquoi, si c'est sur des critères racistes, comme pas mal d'algorithmes sont accusés de biais racistes, entre autres sexistes, etc.
Exactement.
Donc voilà, on demande à un humain en fait d'être responsable, et puis c'est une sorte de fusible quasiment.
Exactement. Et je pense que c'est un peu ça. Et donc il y aura, à part les habituelles discussions éthiques, si vous voulez, il y aura vraiment un débat aussi de nature presque cognitive, quelle va être la possibilité d'intervention, si vous voulez, d'un humain qui est mis là en sécurité pour gérer les situations de risque.
Oui, c'est vrai, il y a presque un côté aléatoire, quoi. C'est qu'il faut qu'il y ait un humain, puis il va se retrouver à assumer une erreur d'un système, mais au moins on aura quelqu'un à mettre à la télé en disant c'est de sa faute.
Alors
justement, ça va permettre d'amener sur votre parcours, parce que bon, vous intéressez depuis très longtemps à cette collision entre technologie et société, avec un regard d'anthropologue, hein, c'est votre formation. Alors j'aimerais qu'on revienne sur les différentes étapes. Vous avez travaillé pour une société de télécom, vous avez étudié le comportement des SDF et de la technologie, vous avez parlé d'intelligence, étudié l'intelligence collective dont on a déjà parlé, et vous avez aussi fait des études sur justement ces métiers qui deviennent quelque part tellement annihilants que les gens ne font plus attention et ça mène à des accidents, avec notamment l'exemple des conducteurs de train. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette recherche?
Oui, en fait, en venant avec un regard un peu de ce qu'on appelle les facteurs humains, ou en France on appelait ça l'ergonomie cognitive, etc., je me suis un peu penchée sur justement ces métiers qui avaient peu à peu perdu le côté, d'une part justement le côté actif, mais surtout qui avait aussi perdu, qui était devenu de plus en plus isolé
et abstrait, qui n'était plus relié à la réalité.
Tout à fait. Si vous pensez, si vous regardez, il y a un très beau film de Michel Carnet, je crois que ça s'appelle La Bête Humaine, où il y a une longue séquence où Jean Gabin, conducteur de train, avec son compagnon qui remplit de charbon le train, donc, et il y a ces deux personnes qui interagissent, qui sont très physiques dans leur gestion. Alors, sans vouloir rentrer dans les années 30, mais si vous regardez actuellement un conducteur de train, effectivement, ça pourrait être un pilote d'avion, donc avec très peu d'action, isolé, seul, etc. Et les cas d'accidents que j'ai analysés sont des cas dans lesquels souvent, en fait, et je les ai choisis pour ça, le conducteur était au téléphone, en fait.
C'est tellement ennuyeux que invariablement on sort le téléphone et puis on commence à jouer.
Même si c'est interdit.
D'ailleurs, j'étais fait une présentation dans une société d'autoroute que je ne nommerai pas, et il y a une recrudescence en ce moment d'accidents avec ce qu'ils appellent les hommes en jaune, donc les gens qui interviennent, et il y a une recrudescence monstrueuse d'accidents parce que les gens sont sur leur portable sur les longues lignes droites de l'autoroute, quoi.
C'est
le même phénomène.
Et ça, c'était le même phénomène. Là, par exemple, un cas tragique aux États-Unis, où le conducteur savait, en fait, il faisait la même route, et sa seule fonction, en fait, c'était d'appuyer un bouton pour l'ouverture de porte quand il était en gare, et quand il savait qu'il avait devant lui une vingtaine de minutes de parcours, effectivement, il commençait à regarder, à envoyer des SMS ou des messages, etc. Ce jour-là, quelque chose se passe qui, en fait, c'était en plus une ligne à une seule ligne, donc pas deux, et il y a une collision frontale, etc. Et là, en fait, quand on regarde, et c'est justement le problème de comment est-ce qu'on peut garder la vigilance, comment est-ce qu'on peut assurer
qui est
quelqu'un
responsable quelque part, parce que le système a été designé d'une façon qui fait que c'était tellement
même une minute de désattention,
voilà.
Exactement.
Et alors justement, je crois qu'il y a des centrales nucléaires, par exemple, qui vous ont mandaté pour réinventer leur interface, donc le centre de contrôle. Qu'est-ce que vous avez amené comme changement, par exemple, sur ces grosses salles de contrôle? On imagine des gens comme ça avec des chapeaux, des blouses blanches et puis plein de boutons rouges partout, un énorme bouton sur lequel il faut surtout pas appuyer. C'était quoi un petit peu la démarche que vous ameniez, et puis au final, qu'est-ce qu'il y a eu comme changement?
Alors, on a travaillé sur un... Donc moi, mon rôle, c'était vraiment de faire des observations. J'étais là un peu jour et nuit. Effectivement, assez fascinant, des salles monstrueuses, une responsabilité incroyable des personnes qui gèrent la centrale.
Aussi, hein, c'est ça.
Oui, et contre, voilà. une responsabilité gigantesque, des temps de réaction d'une centrale très lente. En fait, quand vous commencez une opération, ça peut prendre des heures pour que l'effet se sente, donc des temps assez lents. Mais je crois que peut-être la chose qui nous a le plus frappé, on était la nouvelle génération. La génération de centrales voulait automatiser une fonction qui était faite, disons, d'une manière plus manuelle. Il y avait l'introduction d'un élément qui s'appelle le bord, qui était fait, disons, manuellement. Les quantités étaient définies manuellement. Mais ce qui était fascinant dans cette salle, en fait, totalement aseptique, isolée, loin de la, en fait, du réacteur lui-même, les opérateurs nous disaient, mais tu sais, moi, je le sens avec le nez. Et le toucher leur nez, je dis, oui, il y a quelque chose qui va... Et tu es là et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien sentir? Et en fait, leur problème dans l'automatisation, c'était que tout d'un coup, ils n'auraient pas senti le changement, la centrale.
Ils pouvaient plus avoir leur intuition.
Et là, en fait, notre rôle, et beaucoup de personnes qui s'occupent après d'essayer de capturer, d'automatiser certains éléments, c'est de dire, mais qu'est-ce que c'est cette connaissance un peu implicite, presque corporelle, quand on est aussi distant de là où le process se passe. Et voilà, et c'était essayer de comprendre ça et aussi faire des recommandations de nouveau pour essayer de garder l'opérateur bien actif.
De leur laisser finalement leur part d'humanité.
Ouais, et surtout leur part de finesse, de compétence, ouais. D'intangible.
C'est intéressant parce que je crois qu'on va justement vers un monde où, une de mes grandes théories, c'est que quelque part, l'émergence des ordinateurs nous repousse vers notre humanité. C'est-à-dire que plus ça va s'automatiser, plus il va falloir qu'on se tourne vers ce qui n'est pas automatisable. Et un des combats entre, et à mon avis, c'est pas un combat parce qu'en fait il faut les deux, mais c'est entre la data et l'intuition. Et il faut une complémentarité des deux. Mais ça me permet de faire un parallèle avec un autre moment de votre vie où il y avait un peu cette même dynamique. C'est-à-dire qu'il y avait des endroits où on avait beaucoup d'éléments, où on pouvait faire confiance à l'intangible, au contexte, et puis des éléments où au contraire on avait très peu d'informations. C'était quand vous êtes travaillé pour l'opérateur de téléphonie mobile, et d'ailleurs téléphonie tout court nationale suisse, Swisscom, et vous étiez anthropologue et vous alliez observer les familles, et vous voyez qu'il y avait par exemple une hiérarchie dans les différents canaux de communication. On avait certains où justement on avait très peu d'informations contextuelles, très peu d'informations humaines, genre le SMS, et qu'à l'inverse, bien sûr, quand on se voit de face à face, mais on peut tout de suite imaginer le ton de la personne, comment il ou elle, de quoi il ou elle a l'air, etc. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu à l'époque ce constat que vous aviez fait sur l'utilisation que font les gens de tous ces canaux de communication qui nous envahissent? Et aujourd'hui, c'est vrai que pour communiquer, on a des options, on a des centaines quasiment de canaux. Qu'est-ce que vous aviez observé à cette époque-là?
Alors c'était très intéressant parce que justement c'était peut-être donc on parle de 2004 à 2008-2009 et on a suivi des centaines de personnes et on a pu sélectionner une cinquantaine de familles avec plusieurs personnes dans chaque foyer. On les a suivies pendant plusieurs années, donc on a vraiment regardé toute leur utilisation de canaux de communication, ainsi que Internet, la télévision, etc. Mais ce qui est ressorti, c'est que tout d'abord, la première chose, c'est que malgré que même peut-être qu'il y avait à l'époque un tout petit peu moins de canaux possibles, mais quand même, il y en avait au moins 5 ou 6 de choix, et qu'il y avait tout d'abord, il n'y avait jamais de substitution. C'est pas parce que les gens adoptaient un nouveau canal, je ne sais pas, l'SMS, qu'ils abandonnaient l'email. C'est pas parce que ils avaient commencé à utiliser Skype, qu'ils abandonnaient leur téléphone.
Ça, c'est très important, parce que c'est un des grands fantasmes à part la technologie. Dès qu'on voit quelque chose d'arriver, on dit, ah, ça va tout remplacer sur son passage. Ah,
par contre, les gens sont assez
bons. On continue à avoir
des
téléphones fixes au bureau, par exemple.
Il y a des gens qui ont encore des fax. Donc, en fait, tout s'accumule. Il y avait une espèce d'accumulation constante. Mais ce qui était intéressant, c'est que très rapidement, en fait, il y avait une espèce de spécialisation. C'est-à-dire que le nouveau canal, non seulement il n'était pas substitutif, mais il prenait, en fait, une petite fonction spécifique que les autres ne prenaient pas.
Et donc, par exemple.
Par exemple, une des choses qu'on s'était rendu compte, c'est que le SMS, qu'à l'époque avait justement 150 caractères.
140, ouais. Qui avait un peu mauvaise réputation.
Qui était un peu limitée, etc.
D'ailleurs, les concepteurs du SMS faisaient ça comme petit service annexe.
Ouais, exactement, pour les erreurs techniques. En fait, on s'était rendu compte que c'était le canal dans lequel les communications les plus privées, les plus intimes, les plus personnelles étaient en train de se passer. Parce que il avait pour deux raisons, en fait. Une, parce que justement, sa brièveté voulait dire qu'on tendait à l'utiliser avec des personnes avec qui on avait une forte connaissance réciproque.
Parce qu'on pouvait pas donner beaucoup de contexte.
Mais voilà. Donc, puisqu'on n'avait pas beaucoup de contexte, en fait, il fallait qu'il y ait beaucoup de connaissances préalables. Et donc, ça suffisait de dire 4 mots pour qu'on puisse se comprendre. Et ces 4 mots, justement, parce qu'on était en train justement de communiquer avec des personnes assez proches, pouvaient être très intimes. Et ce qui me frappait toujours et qui continue à me frapper, c'est que, en 4 mots, les gens pouvaient s'énerver à un point. 4 mots pouvaient vraiment mettre quelqu'un de mauvaise humeur pendant toute la journée ou au contraire le rendre incroyablement heureux. Et parce que justement il y avait toutes ces connaissances additionnelles qui s'ajoutaient au message. Il y avait une autre chose. À l'époque il y avait justement tous les opérateurs, puisqu'on aussi, mais tout le monde avait vu avec beaucoup de d'inquiétude l'arrivée de Skype. Donc c'était des appels gratuits. Mais si vous vous rappelez, surtout à l'époque, en fait, le grand avantage de Skype, c'était de pouvoir se voir. Et nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que en fait, il y a très peu de gens avec qui on a envie d'avoir des conversations.
Et puis ça crée des enjeux, voilà, ça crée des enjeux assez forts, parce qu'il faut être montrable, par exemple.
Il faut être montrable, il faut aussi, fondamentalement, quand vous vous voyez aussi, vous ne pouvez pas être en train de faire autre chose, vous pouvez pas pianoter sur votre, être en train, donc, en fait, il faut une espèce d'attention réciproque très importante. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, les coups d'appel Skype étaient généralement programmés. C'est-à-dire que les gens se donnaient un rendez-vous spécifique à une heure pour que les deux personnes soient disponibles justement à se donner l'attention réciproque.
Voilà, pour les auditeurs les plus jeunes, il faut leur expliquer qu'il y a eu un monde sans smartphone et que donc la seule façon d'accéder à Internet, c'était via un ordinateur de bureau ou un ordinateur, je mets les guillemets, portable, qui faisait 10 kilos. Mais du coup, en effet, il fallait prévoir, il fallait dire on se Skype à telle heure parce que on pouvait pas, il n'y avait pas des réseaux qui permettaient de faire de la vidéo dans le bus comme aujourd'hui.
Mais il y avait une autre raison pour cette planification, c'était que justement, il fallait aussi que les deux personnes se rendent disponibles pour ce type d'appel en même temps. Et ça, c'est quelque chose c'est un peu une approche qui a conduit un peu beaucoup de
donc c'est un facteur limitant, en fait. C'est pour ça que Skype n'est pas arrivé et puis n'a pas mis les opérateurs au chômage,
exactement.
Comme
au
on
contraire.
L'a pensé un
et
moment.
Et au contraire, pendant des années et des années, je pense que là, je n'ai pas regardé ces dernières deux années, mais pendant des années, en fait, la plupart des gens avaient un maximum de deux ou trois contacts réguliers par Skype. Et c'était typiquement des personnes extrêmement proches, typiquement la grand-mère ou quelqu'un de proche à distance, avec lequel on avait la tendance à avoir des rendez-vous spécifiques, parce que justement, tous les deux devait être disponible à cette communication. Non seulement disponible physiquement, mais disponible mentalement.
Et puis il y a plein de contraintes. On ne peut pas faire un Skype avec une vidéo dans la nuit, par exemple. Il faut qu'il y ait de la lumière. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Est-ce qu'il y avait parce que c'est vrai que, bon, ben, comme tout le monde, moi, j'interviens avec beaucoup de ces médias. Puis il m'arrive de passer d'un média à l'autre. Il m'arrive de dire, tiens, pour tel problème, il va falloir qu'on se voit. Ou tel problème, je vais plutôt le faire par email ou je vais appeler. Comment est-ce que ça se passe ces bons qu'on va faire, en fait, entre ces canaux? Donc, il y a peut-être le SMS à une extrême, très peu de mots, pas très visuel, et puis à l'opposé, se voir en personne. Et puis au milieu, il y a tous ces canaux différents, chacun avec leurs limites et leurs possibilités. Comment est-ce qu'on choisit, en fait, sur quel canal on va aller?
D'abord, ce qui est intéressant, c'est que tendanciellement, la communication tend à rester à l'intérieur du même canal. C'est rare que les gens sautent. Par exemple, si on est en train de faire des conversations via WhatsApp, par exemple.
On va rester dans WhatsApp.
Et en fait, c'est souvent vu comme quelque chose d'assez mal poli. Tout d'un coup, on est en train de parler de WhatsApp et tout d'un coup, vous m'appelez. Pourquoi est-ce que vous m'interrompez de cette manière-là? On le fait, et typiquement on le fait quand il y a une sensation qu'il y a une forte ambiguïté. C'est-à-dire que si on se rend compte, on s'est pas bien compris, on n'arrive pas à se comprendre, il y a une possibilité de se fâcher ou de pas, etc. Alors on passe à un canal où il y a une espèce de niveau d'information supérieur. Mais sinon, on a la tendance à rester à l'intérieur du même. Puis il y a évidemment la chose qui a changé et complètement bouleversé toute la communication, c'est le fait de parler publiquement, c'est-à-dire tous les canaux qui nous permettent, que ça soit par des groupes WhatsApp, par des groupes évidemment
de parler
social media, et
le
fait de parler publiquement. Et là aussi, il y a quand même des normes assez intéressantes qui se sont établies assez rapidement et que j'ai l'impression continuent à persister même avec plusieurs années et qui font aussi du fait que fondamentalement, quand on a une communication de un à beaucoup, disons à plusieurs, la sensation d'obligation elle diminue. Je veux dire, on se sent pas obligé nécessairement de répondre. Et donc, cette communication a ses caractéristiques qui sont très différentes.
Alors, ça pèse aussi. Alors, je retiens de ce que vous dites aussi que vous ne recommandez pas le divorce par SMS, hein. Il vaut mieux se voir pour ça. Quelque chose que je vois, moi, vraiment dans mon quotidien, c'est que, par exemple, donc, je suis impliqué dans beaucoup d'événements. Et quand il y a une caméra et un live, sur Internet, un speaker ne va pas du tout se comporter de la même façon que quand il n'y a pas de caméra. Et du coup, c'est vrai qu'on a conscience aussi du regard des autres et on voit tout de suite que les gens se censurent, ils se tiennent pas pareil, ils n'utilisent pas le même vocabulaire, ils ne vont pas dire certaines choses dans le monde du business, on va pas dire les petits secrets. Donc clairement, il y a des impacts très forts de ce passage de l'expression privée vers l'expression publique. C'est vrai que le mot ambiguïté, moi je le retiens beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté, il y a beaucoup de place pour l'ambiguïté puisqu'on a peu de mots, puisque c'est pas toujours très visuel, puisque ensuite on sait plus si on parle à une personne ou à beaucoup. C'est assez intéressant et donc on en revient peut-être pour ça dans les situations les plus importantes vers toujours le fait de se voir en personne. Un des grands fantasmes, peut-être qui n'est pas arrivé et qui était dont on parlait beaucoup au début des années 2000, c'était cette idée que la vie privée allait envahir le travail. Et ça, je crois aussi que vous êtes penché beaucoup sur cette question pendant cette recherche avec Swisscom.
En fait, ce qui s'est passé justement quand il y a eu tout d'un coup la possibilité d'une part de travailler de la maison, de travailler la maison. Justement, il y avait une grosse. Je me rappelle, il y avait beaucoup de discussions. C'était l'époque du BlackBerry que beaucoup de gens ont oublié justement, qui était justement cet outil incroyable pour qui tout d'un coup permettait de faire ses emails professionnels à la maison. Et il y avait cette grosse crainte que tout d'un coup, justement, il y aurait plus de barrières entre les deux mondes. Ce qu'on a constaté, c'était justement que tout d'un coup, les personnes ont commencé à découvrir la possibilité d'avoir des contacts aussi de nature privée au bureau. Et ça a été une transformation assez significative parce que pendant très très longtemps, on a eu beaucoup de lieux de travail, l'école aussi, etc., où il y avait une barrière très très claire. Donc quand on rentre, il n'y a aucune communication possible avec sa sphère personnelle jusqu'à quand on sorte. Et à l'école, pareil, évidemment. Et tout d'un coup, on a commencé à avoir justement des outils. Et donc, il y a eu une espèce d'apprentissage très important de la gestion de ce qui était faisable, ce qui était permissible, jusqu'à quel point, d'une certaine manière, on pouvait hybrider les deux espaces. Mais je pense que pour beaucoup de personnes, et actuellement encore, ça a été un très grand révélateur, si vous voulez, des caractéristiques organisationnelles du travail, de l'organisation. Et on s'est rendu compte, et peut-être ça a été la révélation, si vous voulez, de ces études-là, c'était que, en fait, le plus une personne était dans une position de cadre ou de pouvoir ou d'autonomie, plus ils avaient le droit, si vous voulez, d'avoir des communications privées et personnelles. C'est-à-dire que moins de contrôle il y avait. Plus une personne était dans une position de subordonnée, avec beaucoup de contrôle, de supervision, plus, en fait, ils devaient se cacher, si vous voulez, pour avoir leurs échanges. Donc, on trouvait des situations où les personnes, justement, se cachaient dans les toilettes. Mais même maintenant, si vous remarquez, à l'extérieur de restaurants ou de comme ça, vous allez voir, par exemple, des personnes qui, à une époque, se seraient cachées pendant la pause pour fumer une cigarette et qui sont là avec leur portable pour envoyer des messages ou regarder Instagram.
Mais c'est vrai que ça a été très progressif parce que, d'abord, le portable a été un objet de luxe, qui coûtait cher, donc on l'a donné surtout au top management. Et aussi, c'est vrai que pas mal de gens peut-être n'ont pas connu ça, mais les programmes qu'on pouvait aller voir à l'intérieur d'une entreprise étaient bloqués. Il y avait des sites sur lesquels on pouvait pas aller. Il y a toujours d'ailleurs des sites sur lesquels on peut pas aller. On pouvait pas installer ce qu'on voulait sur son ordinateur. Et là, il y a eu ce phénomène qu'on a appelé les chief technology officer, les gens qui bossent dans la technologie appellent ça le bring your own device, donc amener votre propre ordinateur, où d'un seul coup, en tant qu'individu, on avait le choix entre l'ordinateur du bureau qui était bridé, on pouvait rien faire, et puis l'ordinateur qu'on a dans la poche, qu'on appelle téléphone, mais c'est un ordinateur sur lequel on a aucune limite, et puis qu'on ne peut pas arrêter, puisque ça passe par un réseau que l'entreprise n'est pas capable de couper à l'entrée de ses murs. Donc il y a un bouleversement, mais donc il y a eu cette grande peur de l'invasion de la vie privée. Donc là, on a eu peur un peu pour la productivité. Mais en fait, j'ai l'impression que ce qui s'est passé, c'est l'opposé. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde travaille 24 heures sur 24 et c'est en fait la vie professionnelle qui a envahi la vie privée.
Oui, probablement. De nouveau, il y a des grosses différences entre évidemment le type de position. Et ce qui est intéressant, c'est que je peut-être là en tant qu'anthropologue, ce qu'on s'est rendu compte que le par exemple, regarder les usages du téléphone mobile sont un des moyens les plus faciles, de certaine manière, de se rendre compte presque des relations de pouvoir. Quels sont les droits, qui fait quoi, à quel moment, et vraiment, quand est-ce qu'on doit répondre à l'email, quand est-ce qu'on peut regarder ces messages
oui,
privés, etc.
La personne la plus senior dans un rendez-vous,
c'est vraiment
si son téléphone sonne, peut se lever et quitter, alors
la
stagiaire ne peut pas le faire. Quoi.
C'est vraiment un révélateur
de la pouvoir, hiérarchie
de la hiérarchie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi en fait, la pression. Je dis toujours que le numérique est peut-être de nouveau un révélateur aussi de toutes les nouveaux conflits sociaux potentiels. Une des choses que je trouve intéressante, c'est par exemple à regarder à l'intérieur des familles, qu'est-ce qui fait énerver les parents. typiquement, là où il y a ces énervements, ces tensions, ces conflits qui sont très très forts, la technologie a déclenché des conflits à l'intérieur de la famille sur le nombre d'heures sur les jeux, le nombre d'appels, les prix, les choses, etc. Tous ces conflits, en fait, ils mettent vraiment ils révèlent, si vous voulez, ce qui sont les nouvelles tensions, les nouvelles façons d'interagir avec autrui. Vraiment, ils révèlent les tensions sociales qui sont portées par la technologie.
Donc vous allez voir un petit peu à la marge pour comprendre les usages émergents puis qui vont se généraliser. Il y a une autre marge sur laquelle vous êtes penché, qui est celle des SDF, que vous avez observé. Vous avez observé leur usage des technologies. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé chez ces gens-là?
Alors tout était parti parce que on s'était rendu compte dans les foyers d'accueil des SDF, en fait, il y avait une course dès que les portes ouvraient. Il y avait une course à la prise électrique, parce qu'en fait, le téléphone était vraiment un élément essentiel pour leur vie quotidienne. Et l'autre chose qu'on avait constaté, donc cette étude a été faite à Londres, où malheureusement il y a vraiment beaucoup de personnes dans la rue, c'est que pendant la journée, il y avait beaucoup de sans-abri dans les salles gratuites d'usage d'Internet. Et donc
les librairies, les cafés,
etc. Surtout les bibliothèques où on avait aussi accès à l'ordinateur. Et donc dans notre étude, on a regardé aussi bien l'usage des médias sociaux, donc Facebook, etc., que l'usage des moyens privés. Et on s'est rendu compte que surtout, donc là je parle de jeunes SDF, donc pas des personnes avec des gros problèmes psychiatriques, mais des personnes qui souvent sont SDF pour des raisons presque économiques ou de illégalité de leur statut de résidence. En fait, ils passaient énormément de temps sur Facebook, et on était vraiment surpris du nombre de contacts alors que on s'imagine un SDF comme une personne que justement est très isolée,
ouais.
Très peu de contacts.
Donc ils étaient isolés dans le monde physique, mais dans le monde digital, ils participaient un peu comme les
Exactement.
Autres. Puisque dans le monde digital, j'imagine qu'ils pouvaient avoir un peu une identité tierce, quoi. Ils n'étaient pas au coin de la rue en train de mendier. Ils pouvaient construire une image qui, du coup, les réincluait un petit peu dans la société.
Il y avait ça. Il y avait aussi que, objectivement, c'était des personnes qui avaient des contacts, mais malheureusement, qu'on aurait gardé ce qui les rendait SDF, de certaine manière, c'était qu'il leur manquait, en fait, un espèce de cœur de contact, les contacts les plus proches, les plus intimes, les personnes qui peuvent les héberger en cas de difficulté, la maman.
Donc c'est des gens qui avaient une socialisation, mais différente
des gens qui
n'étaient pas SDF.
Exactement. Et l'autre chose...
Alors attends, il faut juste qu'on explique comment c'était différent, parce que ça, enfin, c'est pas une évidence pour moi. Comment c'était différent? Donc, en fait, ce que vous dites, c'est que nous, on a des contacts proches, genre des parents, des frères et sœurs, des contacts. Ensuite, on a un cercle d'amis, et puis ensuite, on a un cercle étendu. Et donc, ces deux premiers cercles, peut-être, sont ce qui nous protège, parce que si on a un problème, on va pouvoir aller dormir chez quelqu'un, être aidé. Et ce que vous avez constaté, c'est que ces gens n'avaient pas ces premiers cercles. Par contre, ils arrivaient à maintenir les cercles plus distants. Ils avaient 500 amis comme sur Facebook, comme tout le monde, quoi.
Tout à fait, c'était ça, en fait. Et Donc leur utilisation de Facebook permettait de leur garder ces liens les plus éloignés. Le téléphone mobile, ils l'utilisaient souvent pour garder contact avec, par exemple, des autres personnes qui étaient sans abri. Il y avait un énorme tam-tam d'informations. Il y avait un échange d'informations de où on pouvait aller laver ses affaires, où on pouvait manger gratuitement.
Donc c'est de nouveau l'intelligence collective.
Tout à fait. Il y avait une énorme intelligence collective là, échange d'informations constant pour la vie quotidienne. Et ce qui manquait, c'était cette espèce de cœur de relation. C'est ce que, en fait, c'est les personnes qu'on appelle le plus souvent, les personnes avec qui on est en contact le plus souvent, les personnes qui justement peuvent nous héberger en cas de besoin. Et c'était probablement ce manque-là, effectivement, qui rendait leur situation insupportable.
Donc, par le biais de la technologie, vous êtes arrivé en fait au fond du problème, quoi. Qui était que c'est des gens qui sont complètement isolés, mais de vrais amis en fait ou de vraies familles.
Tout à fait. Et l'autre chose, si vous permettez, c'est ce qu'on s'était rendu compte, c'est que dans la vie de l'SDF, en fait, ils sont justement, si on est dans la rue, on est complètement au gré des événements externes. S'il pleut, s'il y a des gens qui vous embêtent, etc. Et il y a très peu de contrôle. Et aller sur Internet, c'était un des peu de moments de contrôle qu'ils avaient dans la journée. En fait, c'était là qu'ils pouvaient choisir de lire un certain journal de leur lieu d'origine, d'écouter une certaine chanson. Et c'était vraiment comme un moment c'était vraiment le moment où ils pouvaient le mieux exprimer leur moment de contrôle sur leur environnement.
Et puis ils étaient assimilés, ils étaient comme les autres à ce moment-là.
Tout à fait, oui.
Et quand vous regardiez les usages, c'est des gens, enfin, on a toujours un peu ces clichés sur les SDF, et quand vous regardiez leurs usages, c'est des gens qui allaient lire le journal, qui regardaient des vidéos YouTube, enfin, c'est oui. Complètement normal ou vous avez constaté une différence?
Non, à part le fait de chercher certaines solutions pour justement où est-ce qu'il y avait quelque chose
à part l'aspect survie,
honnêtement, il n'y avait aucune différence dans leur usage qu'une autre personne de 25 ans qui regarde le foot ou veut regarder une vidéo ou lire les dernières infos.
Stéphane Broadbent, vous êtes allé essayer de comprendre cette révolution numérique au sein des familles. Ensuite, vous êtes intéressé au travail, vous êtes intéressé au SDF. Où se porte votre regard ces temps-ci?
Alors, en ce moment, je pense comme beaucoup de gens, peut-être la thématique qui m'inquiète le plus, c'est évidemment le changement climatique. Et c'est là, et je rejoins mon intérêt pour l'intelligence collective. Je pense que dans ce domaine, il y a l'intelligence collective peut.
On en a besoin en tout cas. C'est le dilemme du prisonnier. Si on est les seuls à faire l'effort, ça marche pas. Et il faut que tout le monde fasse l'effort en même temps pour qu'il y ait un changement.
Donc c'est le thème en même temps, intelligence collective, participation pour trouver des solutions et intelligence collective, oui.
Vous avez une fille qui a 19 ans, je crois, ou 18 ans.
17.
C'est quoi les règles par rapport à la technologie à la maison chez vous?
Alors, dans un sens, on est très moderne, parce que ça fait très longtemps qu'on a plus de télévision. On n'a pas de télévision, en fait. Notre fille ne sait pas ce que ça veut dire attendre pour un programme. Donc, elle devra attendre quelques jours pour un programme. Et actuellement, je pense qu'il y a des règles, je dirais, de participation à la vie familiale, comme beaucoup de gens. On aime bien qu'elle nous regarde en face quand elle nous parle. On n'a pas envie de regarder l'arrière d'un téléphone. Et donc, une certaine capacité de socialisation face à face.
Par rapport à Il y a tous ces clichés un peu sur les jeunes générations. Enfin, depuis la nuit des temps, moi qui m'intéresse à l'histoire, j'ai trouvé l'autre jour un prof en Angleterre en 1815 qui se plaint du fait que les élèves ne savent plus écrire au tableau. La technologie qui est coupable de ce délitement de la société, c'est le papier. Hein, c'est qu'on a amené le papier dans les classes. Vous, quand vous regardez cette jeune génération qu'on dit accro, on dit qu'ils ont la capacité de se concentrer 3 secondes, vous êtes optimiste ou vous êtes pessimiste?
Moi, je suis toujours optimiste parce que je trouve qu'il y a d'autres compétences qui sont en train de se développer.
Lesquelles?
Par exemple, justement, la capacité de traiter un nombre impressionnant d'informations. Je pense que c'est un challenge incroyable, le fait de devoir complètement, continuellement filtrer, choisir, voir, filtrer, choisir. Donc, je pense que cette capacité va se développer. J'aimerais parfois qu'ils puissent, d'une certaine manière, exercer cette capacité peut-être aussi dans un contexte éducatif, chose qui est difficile à faire et l'école, je pense, elles font ce qu'elles peuvent. C'est vrai que j'ai des inquiétudes par rapport au problème de l'attention, mais je les ai autant pour les parents que, et pour les adultes que pour les jeunes. Donc je pense pas que ça soit un problème générationnel, ça, c'est un problème que nous avons tous à prendre d'une certaine manière à contrôler notre attention, mais là c'est un long discours.
Merci Stéphana.
Merci Laurent.
Merci d'avoir écouté Be My Guest. Je vous retrouve très vite avec Antoine Verdon pour parler blockchain. Il est le cofondateur de Block Factory et Proxeus.
C'était Be My Guest, présenté par Laurent Haug, en partenariat avec 200 idées et créa, école membre de InsecU.